Yep. Est-ce que ça a démarré? Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va bien ce matin? Est-ce que vous... 5 sur 5. Merci Samuel. Vous m'entendez bien? Nickel. Alors Marion n'est pas là ce matin. Elle avait une visite médicale. Donc c'est moi qui m'y colle tout seul ce matin. Hein? Vous retrouverez Marion mercredi comme d'habitude. Normalement. Je n'ai pas vu avec elle, mais normalement, ça devrait être bon. Hop, le micro est pas super bien positionné. Hop. Oh là. Bon, on va dire que c'est bon. Salut Tristan! Mais dis donc, Tristan, on le voit de bon matin maintenant. Les horaires de l'école ont dû changer, Tristan. bonjour à tous. Ouais, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez! J'ai pas l'habitude, j'ai plus l'habitude le lundi matin d'être tout seul. Je suis complètement bouleversifié. Hein, c'est pas facile, pas facile. On va commencer par nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, on aimerait remercier André V. On aimerait remercier Xavier CM, Christophe, Holgrim78 et Pagus. Merci à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. J'en profite pour faire un petit message de rappel. Vous avez peut-être reçu un mail de Marion, vérifié aussi dans votre boîte à spam. C'est peut-être passé dans la boîte à spam. Il y a pas mal de cartes bleues qui sont arrivées à échéance. Donc, après, si vous avez l'intention d'arrêter d'être contributeur, il n'y a aucun souci, hein, liberté et comme vous voulez. Mais pour ceux qui auraient fait un petit oubli de renouvellement de carte bleue, pensez à vérifier. On a eu effectivement beaucoup d'arrêts ce mois-ci. Donc, il est possible que certains, ça soit à cause de leur carte bleue. Ou alors, simplement, j'ai fait un truc qui a déplu à plein de monde et plein de monde a décidé d'arrêter sa contribution. C'est des choses qui peuvent arriver, hein. Et du coup, la petite clochette, ça fait la petite clochette du mendiant. Eh, vos Tipeee pour passer l'année. Mais où est Marion? Marion est à une visite médicale. Je vais pas vous faire. Y a-t-il du rififi? Marion, pas là un lundi matin, que s'est-il passé? Eh bien non, elle a simplement une visite médicale. Donc voilà. Je présente avec Lorraine et plus avec Marion. Oui, bah ce n'est pas tout à fait remplaçable, même si notre fidèle Rennes est toujours là. Et voyez, il hoche de la tête pour manifester sa satisfaction. Sous le soleil de la Réunion, 29 degrés. Oh, ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Du coup, merci, Sultan. Écoute, profite bien. On va faire notre petite expression désuète du jour, hein, pour un lundi, hein. Eh bien, oui, puisqu'on est à l'atelier, donc on a le livre. Et aujourd'hui, on va voir chérubin. Qu'est-ce qu'un chérubin? C'est un chérubin. C'est le synonyme de ange. On représente généralement les anges avec un visage joufflu et un teint frais. Un chérubin est un bel enfant, plutôt potelé. Si l'on dit d'un adulte qu'il est beau comme un chérubin, on suggère qu'il présente une beauté enfantine. Et bien qu'on ne connaisse pas le sexe des anges, l'expression s'emploie plutôt pour un homme. C'est vrai qu'on dit rarement d'une femme qu'elle est belle comme un chérubin. Hein. Puis les chérubins, hein, ils n'ont pas que le visage joufflu, hein. Généralement, il y a des petites fessouilles. Hein. Hein. Allez, à Versailles, il y a des beaux chérubins dans la fontaine. Voilà pour la petite expression désuète du jour. Oula, j'ai du mal à parler aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, ça va. C'est vrai que le samedi, eh bien, on s'est reposé, du coup, comme pas mal de Parisiens. On est resté chez nous et on a fait des courses de Noël, mais par Internet. Hein, du coup. Dommage pour les commerces locaux. Ben oui. Même si honnêtement, dans notre quartier, c'était super calme. Comme j'expliquais à des gens qui m'appelaient en me disant, oh là là, il y a le feu à Paris. Je disais, mais tu sais, là, pour nous, c'est plus calme qu'un match de foot, quoi. Il y a presque moins de monde dans les rues. Bon, c'est sûr que ça a été un peu plus chaud, mais bon, bref. Quoique, il y a des matchs de foot qui ont été bien chauds, hein, aussi. Bonjour depuis Los Angeles, Damien. Eh bien, écoute, bon séjour à Los Angeles. Allez, le sommaire. Salut, Jérôme is the new black. Pas mal. Amazon, principal gagnant des gilets jaunes. Ouais, je pense que par effet rebond, le e-commerce a pas mal profité de la situation, ouais. Par effet de rebond, c'est sûr, c'est sûr. Allez, on va voir le sommaire ensemble. De quoi qu'on va parler ce matin ? Eh bien, c'est une excellente question, on va regarder ça ensemble. Eh bien, sachez que vous n'avez plus le droit de dire revenge porn ou mouse jacking, mais maintenant, il faut dire porno-divulgation ou vol à la souris. Nous verrons les nouveaux mots tech traduits en français. Et avec l'obligation de les utiliser, bien sûr. Nous parlerons de Xiaomi. Xiaomi qui fait du teasing autour d'un appareil photo pour smartphone de 48 mégapixels. Eh bien, nous ne sommes pas des gros naïfs hein, du marketing photo smartphone. On ne peut que se poser des questions sur ces 48 mégapixels. Est-ce qu'ils vont être tout petits? Comment ils ont fait hein? Est-ce que ça va détériorer l'image? Bref, on ne tombera pas dans le panneau, monsieur Xiaomi. Nous analyserons cette annonce. Nous parlerons de Lyft et Uber qui tous les deux vont rentrer en bourse. A priori, les IPO, comme on dit, sont engagés. C'est une des grosses rentrées en bourse dans le monde de la tech cette année, mais pas les seules. C'est ce que nous verrons. On parlera également de la Freebox Mini 4K. Xavier Niel évoque déjà une remplaçante dans 2 à 3 ans. Et effectivement, il n'y aura plus à attendre quasiment 10 ans pour une nouvelle box. Le rythme des nouveautés chez Free va s'accélérer. On parlera du Rewind 2018 de YouTube, le top des vidéos les plus tendances en 2018. Je vous partagerai ça et puis surtout on analysera un petit peu ce Rewind. Est-ce que YouTube est un petit peu en train de se perdre ou pas? Et justement, article qui s'enchaînera, regardez comme ils sont beaux, comme ils sont beaux, et bien c'est des influenceurs youtubeurs, ils sont prêts à tout pour l'amour du like. Un article d'analyse de CNET France que j'ai trouvé assez intéressant et donc que je partagerai avec vous en fin d'émission. Voilà, voilà. Il est 23h, tu vas aller au dodo, Damien. Oui, je pense que tu as le... C'est gentil d'être venu nous faire un petit coucou, mais là, il est peut-être l'heure de se coucher. Dors bien. Les vitriers aussi ont été gagnants ce week-end, ouais. Et c'est sûr qu'il y a eu... Il y a eu de la vitre cassée, quoi, on va dire. J'avoue avoir suivi ça de très très loin, hein. Et puis de toute façon, on n'est pas là vraiment pour faire de l'analyse des phénomènes de société et politique, sauf quand ils ont trait avec la tech. Allez, on va pouvoir commencer effectivement le Techscope du jour. Est-ce que la chatroom s'est bien remplie ou pas pour un lundi matin? 180 visionnages en cours, c'est bien, vous levez bien le lundi matin. Ça doit être un peu dur là. Il fait un peu froid, on a connu pire en froid. Et cette semaine, ah, tiens, si on faisait un petit point météo pour changer un petit peu. Ça y est, Jérôme part déjà dans les graviers. Ouais, bah, je fais mon petit point météo. En tout cas, le point météo sur Paris, il y aura des éclaircies mardi, mercredi, jeudi nuageux, vendredi nuageux et des pluies le samedi. Peut-être des éclaircies le dimanche. Voilà, vous avez la météo de la semaine. En tout cas, de Paris. bonjour Jérôme, Laurence et Cadiz du Salon de la Photo, rappelle-toi le G7 dédicacé, mais je me souviens très bien, eh ben, j'espère que Candice s'éclate bien avec son G7 tout nouveau. Voilà, non, dans le 15e ils ont une météo à part, hein. C'est pas la même que dans le reste de Paris, il y a un anticyclone sur le 15e toujours. Hello de Mayotte, et il y a des gens qui sont en France là. Hello de Mayotte, hello de la Réunion, hello de Los Angeles. Y a que moi qui suis en France, là. Tout le monde a fui à cause des gilets, des gilets jaunes. Des gilets jaunes. Si un gilet jaune brûle ton atelier, ça concernera la tech. Hein, ça, c'est sûr. Ouais. Ce serait pas très drôle, en fait. Le Nabastag ne nous regarde toujours pas de face. Ouh là là, il y a ça, hop, rien que pour toi. C'est bon là, il vous regarde de face. Presque. Allez, c'est bon, le Nabastag vous regarde. Bon, on va peut-être pouvoir commencer. Hello de la Normandie, c'est encore la France? Oui, oui, depuis un certain temps. Allez, on démarre, on démarre. On va parler effectivement d'un certain nombre de décisions et de... Non, pas de décisions, mais des nouvelles traductions en français de mots anglais ont été publiées au Journal officiel. C'est la commission d'enrichissement de la langue française qui a validé de nouvelles traductions. Donc, on va les voir ensemble. En tout cas, celles qui sont liées à l'innovation, au droit et au cyber. Donc, Revenge Porn... Disruptive Innovation Cyberbullying, tout ça maintenant est traduit. Alors, le revenge porn se traduit désormais officiellement par porno-divulgation. Voilà. Donc, le méchant, enfin le salaud, il a tweeté des photos de il a porno-divulgué notre relation. Donc, je rappelle que le revenge porn, c'est une divulgation d'un média à caractère sexuel, comme une vidéo ou une photo produite avec ou sans le consentement d'une personne afin de lui nuire. Cela se fait en général par esprit de vengeance. Alors, je trouve que dans la traduction, déjà, je pense que ça va faire partie de ces traductions qu'on va peu utiliser, puisque porno-divulgation, ça vient pas naturellement. Et je trouve qu'on perd, là, pour le coup, le côté revanche. Enfin... vengeance, esprit de vengeance. On le perd un peu dans la... Parce que porno-divulgation, je trouve ça plus vague et plus large, personnellement, que revenge porn. Mais bon, ce n'est que mon avis. Je ne fais pas partie de la commission d'enrichissement de la langue française. Et c'est peut-être tant mieux. Alors, d'autres traductions, le Disruptive Innovation, Incremental Innovation, Open Innovation, Reverse Innovation, Sustaining Innovation, sont adaptées respectivement en innovation de rupture, innovation incrémentale, innovation ouverte, innovation inversée, innovation continue. Là, pour le coup, on les utilisera. Ça veut dire la même chose, c'est une vraie traduction. Ça marche. Pour moi, ça marche. Après, je pense que dans les milieux du marketing et du web, on continuera à dire disruptif, ce qui est effectivement qui peut écorcher les oreilles de certains. Mais vous connaissez ces milieux, ils aiment bien les anglicismes. Merci Arnaud pour ton super chat, pour que tu ne divulgues pas notre photo chaude. Pas de problème Arnaud, je la garde bien au chaud. Courriel, ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive, moi, d'utiliser courriel, mais pas souvent, à vrai dire. Pas souvent. Mais là, je trouve, pour le coup, ça va comme traduction. Ensuite, nous avons le vol par effraction électronique ou bien vol à la souris pour le mouse jacking. Vol à la souris, c'est un petit côté désuet. J'ai l'impression de voir une petite souris qui va me piquer un truc, quoi. Je sais pas. Et le vol par effraction électronique, ça fait un peu déclaration de vol. Fait langage juridique. Donc, pas sûr qu'on l'utilise beaucoup, ça. En plus, il y a un... Enfin, jacking... là aussi, c'est le problème de la langue française qui est largement aussi riche que l'anglais, voire plus pour certaines choses. Mais le mot jacking, c'est plus spécifique que vol. Le carjacking, le housejacking, je ne sais pas quelle serait la traduction vraiment littérale de jacking, mais ça recouvre autre chose que... Enfin, ça recouvre une notion de vol bien précise, je trouve. Vol à la souris, c'est beau. Oui, c'est un petit côté... c'est un petit côté poétique presque, mais justement, ça rend le truc un peu désuet, je trouve. Non, c'est pas tout à fait intrusion, le jacking. C'est surtout très long à dire. Ça, c'est pas faux, Émilie-Marie. De toute façon, maintenant qu'on supprime la prise jack, le jack-jacking. Ensuite, nous avons, pour remplacer... Cybercrime, cyberbullying, cyberterrorism. Logique, on a cybercriminalité, cyberharcèlement et cyberterrorisme. On les utilise déjà. Là, je dirais que c'est rentré. Il y a peut-être, j'ai tendance plus à dire cyberbullying que cyberharcèlement. Mais là, on est vraiment dans de la bonne... Enfin, on est dans de la bonne traduction. Là, pour le coup, on est kiff-kiff. Donc, ça marche. Ça marche, ça marche. On notera aussi que pour le cyberharcèlement, il couvre d'autres termes anglais, puisque outre le cyberbullying, il y a aussi cyber harassment, cyber stalking, internet bullying et online bullying. Tout ça, c'est du cyberharcèlement. Je trouve que ça marche. C'est des mots que je pourrais très facilement employer. Donc, pour en venir vraiment, est-ce que c'est utile ces traductions ? Honnêtement, je pense que oui. Je suis le premier à démolir la langue française avec mes anglicismes qui irritent certains d'entre vous, et je le comprends tout à fait. Je suis néanmoins 100% pour que le français reste une langue vivante, qu'on offre des traductions. Après, j'ai envie de dire, le propre d'une langue vivante, c'est la manière dont les gens s'en emparent. Une langue est vivante de la manière dont les gens l'utilisent. Pour moi, même des langages peu châtiés, des expressions, ce genre de choses, c'est ça qui rend une langue vivante. Et on ne peut pas reprocher une commission de proposer des traductions, mais après, finalement, entre guillemets, c'est le peuple qui décide. Et quand je dis le peuple, c'est les peuples, parce que en francophonie, on n'est pas tous dans le même pays, on n'est pas tous pareils. Au Québec, on va utiliser des expressions. En France, on va utiliser des expressions. En Suisse, on va utiliser des expressions, etc. Et même au sein de la France, du Québec et de la Suisse, selon les différentes régions, selon les différents milieux, on va utiliser des expressions différentes. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans la langue française. C'est ce côté, moi... Quand on me reproche de parler français, j'entends, j'accepte, et parfois je m'excuse d'utiliser des mots anglais. Néanmoins, je pense que le propre d'une langue vivante, c'est qu'elle est différente, c'est qu'elle est chantante. Si une langue vivante doit être un truc écrit dans le marbre et qu'il n'y a qu'une seule façon d'exprimer des idées, ça veut quelque part dire qu'on n'a qu'un seul type d'idée. La langue, c'est notre pensée, la langue, c'est... Bref. Ode à la langue. Oublie pas la Belgique, je suis désolé les Belges. Je suis désolé. Hein, les Belges ont cru qu'ils étaient le 15e de la francophonie. Non mais dans le 15e, ils ne parlent pas exactement le français. Ils ont une langue à part. Après, voilà, juste pour terminer là-dessus... quand je dis que je suis 100% pour la défense du français, mais vraiment à 100%, je ne veux pas que le français disparaisse. Ça ne m'empêche pas et ça ne doit pas empêcher de bien apprendre l'anglais, et que l'anglais est aujourd'hui, avec le chinois, on va dire, deux langues vraiment dominantes dans le monde. Mais c'est pas une raison pour en oublier le français ou le détériorer. Après... Je suis de ceux qui pensent qu'utiliser un anglicisme n'est pas forcément un crime de lèse-majesté. Tout dépend. Quelqu'un qui fait attention, on va dire, et je suis le premier à me blâmer là-dessus, mais quelqu'un qui fait attention à ses accords, à son orthographe, à l'utilisation des bons mots en français, pourquoi pas y mélanger un petit peu de mots anglais. Ça dépend ce qu'on a exprimé, quoi. C'est tout. Moi, je trouve, je le redis, certains mots anglais sont plus parlants que leur traduction française parce que c'est une langue différente. Voilà. Ouais, buzz par Ramdam. Bah, là, pour le coup, ça n'a pas la même connotation dans le sens où Ramdam est un mot assez ancien. Donc, quand tu dis oh là là, un article qui fait du Ramdam. Ça te donne quand même un petit côté 1800 quelque chose, quoi. Non, le 15e n'est pas au sud-ouest de Paris. Non, non, le 15e n'est pas sur la carte. Le 15e, c'est le triangle des Bermudes de Paris. Tout disparaît dans le 15e. Non, dans le 15e, ils disent pas chocolat. Ils n'ont pas ni de pain au chocolat, ni de chocolatine. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas encore inventé dans le 15e. Hein, c'est inéductable, absolument. Allez, On continue. Je me marre avec ce genre d'article. On pourrait y rester des heures. Parlons un peu de Xiaomi, hein, qui n'a pas fini de se marrer aussi. Hein, Xiaomi, qui est quand même un grand spécialiste des annonces et des effets de manche, qui essaie de, quand même dans leur tradition de sortir parfois des smartphones avec des specs assez hallucinantes. Eh bien, le PDG de Xiaomi aurait teasé, Lin Bin, pardon, aurait teasé un smartphone qui devrait arriver en janvier, et ce smartphone n'aurait pas moins de 48 mégapixels. Oh mon Dieu, mais ça va être le meilleur photophone du monde. Que nenni, que nenni. Il ne connaît pas les gens qui écoutent Techscope ou qui regardent Techscope tous les matins. Nous, on ne tombera pas dans le panneau du mégapixel. Nous savons que les mégapixels, ça ne veut rien dire tant qu'on ne connaît pas la taille du capteur. Parce que beaucoup de mégapixels sur un petit capteur, eh bien, ça veut dire des photosites tout petits, donc beaucoup moins de lumière. Donc, qu'est-ce qu'on en aura à foutre d'avoir une photo de 48 mégapixels si elle est sombre comme le... Je vais arrêter avec les expressions. Voilà, 48 mégapixels sur un tout petit capteur, c'est une hérésie, monsieur Xiaomi. Bon, on suivra en tout cas de près cette annonce, sachez-le, monsieur Xiaomi, monsieur Lin Bin. Après, il y a deux choses. Il y a deux choses intéressantes dans les 48 mégapixels. Bon, s'ils arrivent à produire une luminosité correcte, avec un super bon denoiser, machin, etc., comme on l'a vu cette année avec le Pixel 3 et dans une certaine mesure l'iPhone, why not? Mais une photo de 48 mégapixels gérée par un smartphone, ça veut dire, et c'est là où ça devient intéressant, qu'on a mis un putain de processeur pour traiter ça en temps réel. Parce que une photo de 48 mégapixels, c'est lourd. C'est lourd. Donc, à voir. Ça rappelle le Nokia, ouais. Un 12 mégapixels sur un plein format et c'est très bon. Oui, en fait, mégapixels, ça peut avoir une importance en photo si vous faites des impressions très grandes. Ça a une importance si vous faites un type de photo professionnelle qui demande énormément de piquets qui vont être reproduites, type le portrait, certains paysages, de la photo d'architecture. Là, le mégapixel peut avoir du sens. Mais le mégapixel, encore une fois, sans la taille du capteur, ça ne veut rien dire. 48 mégapixels sur un micro 4 tiers, ça vaut pas 48 mégapixels sur un full frame, par exemple. Parce que, encore une fois, la taille du pixel, c'est ça qui compte. Denoiser ou débruiteur ? À voir. Où est-ce que j'en étais ? Jérôme porte un jean liveless et des Nikkei. Hein ? De quoi vous parlez ? Je n'ai pas compris. Ah, vous parlez toujours de la langue française. Non, on ne parle pas d'un Huawei, c'est un Xiaomi. J'ai dit Huawei ? Non, c'est un Xiaomi, là. C'est le président de Xiaomi qui tease sur le 48 mégapixels. À voir. En tout cas, nous étudierons de près cette sortie pour voir si c'est du nawak ou pas. Beaucoup de mégapixels sur un smartphone, ça peut servir pour faire un bon zoom numérique. Oui et non, Gilles, parce que si tes pixels sont tout petits, tu pourras faire un zoom numérique, mais tu vas perdre quand même en résolution parce que tes pixels seront tout petits. Donc, ce ne sera pas forcément l'effet escompté. Teaser, c'est un aguicheur. Je ne sais pas comment on dit teaser en français. Bref. Yep. Allez, on continue et on va parler de Lyft et Uber. On le sait parce que ça a été rendu officiel. Lyft a rempli son dossier pour une IPO. IPO, c'est une introduction en bourse. En gros, vous devenez une société publique. Les actions sont vendues à qui veut bien les acheter. Ça devrait prendre place en 2019. Et nous apprenons également que, discrètement, mais en même temps, Uber a déposé aussi. Uber n'est toujours pas coté en bourse, hein, je le rappelle. Et s'apprête à devenir public. Ça va être effectivement un combat de titans, hein, entre Uber et Lyft. On connaît un peu moins bien Lyft en France parce qu'on ne l'a pas, mais Lyft aux États-Unis se bat au coude à coude effectivement avec Uber. Pour le marché, en gros, des transports, puisqu'aujourd'hui, Uber ne se limite pas à des VTC, mais on sait qu'ils ont racheté et qu'ils rachètent des sociétés avec des scooters électriques, qui font aussi de la livraison de nourriture. Pas mal de choses, en tout cas, aujourd'hui. C'est quand même des très grosses sociétés d'aujourd'hui, mais surtout des très grosses sociétés de demain. Et pour preuve, certains banquiers sous le manteau disent que l'évaluation boursière d'un Uber se chiffre à 120 milliards de dollars. C'est absolument énorme, ça fait partie, si ce n'est, je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais je pense, une introduction en bourse la mieux valorisée du monde, parce qu'une entreprise qui commence en valorisation boursière à rentrer en bourse à 120 milliards de dollars, quand même beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup. Oui, on en a déjà parlé, blabla sur AZERTY. Apple qui est descendu et Microsoft qui a dépassé Apple. On en a déjà parlé la semaine dernière. Ouais, tease, c'est taquiner, mais enfin, un teaser, c'est pas un taquineur. Non plus. Snapchat était à combien en introduction ? Alors, je me souviens pas, mais... Je sais plus, mais... Ouais, je sais plus. Faut chercher dans Google. Genre, moi, je connais toutes les valeurs des entreprises qui sont introduites en bourse. Bah, vous me prenez pour qui ? Pour Wiki-Jérôme ? Donc effectivement, mais cette année, il faut savoir que ça va pas être les seules grosses introductions en bourse au niveau tech. Les deux autres gros qu'on attend, c'est Slack et Airbnb. Et oui, ils ne sont toujours pas non plus en bourse. C'est toujours des sociétés privées pour l'instant. Elles ne sont pas encore publiques. Donc cette année, il va y avoir effectivement du lourd. Dans un marché de la tech qui plutôt est tiré vers le bas en ce moment, hein, ça dégringole pas, enfin ça dégringole pas, mais ça a pas mal baissé effectivement le marché de la tech après des années extrêmement florissantes avec des pics fin 2017, début 2018. Il y a eu là un vrai tassement ces dernières semaines des valeurs tech. Un teaser au cinéma, c'est plus un appât. Ouais, mais là encore, le mot, ça va pas marcher. Hein. Ça va pas marcher du tout. Dis Jérôme, il fait quelle température dehors ? Ah oui, non, vous me prenez pour votre assistant personnel ? Vous voulez que j'allume la lumière chez vous ? Faites gaffe, je risque de venir et schlac ! Je vous allume la lumière à 5h du matin. En tout cas, à suivre ces grosses introductions en bourse, ça va probablement redéfinir le marché, effectivement, pour 2019-2020. À suivre de près, parlons un petit peu de la Freebox. On ne va pas parler des Freebox qui ont été annoncées, la Delta et la One, mais plutôt des Freebox qui sont à venir. Parce qu'effectivement, certains journalistes ont posé la question à Xavier Niel, est-ce qu'il va falloir attendre encore aussi longtemps pour avoir une nouvelle Freebox, parce que pour rappel, la Freebox Revolution, mince, j'ai pas la date dans cet article-là. Aidez-moi, elle est sortie il y a quoi en 2012 ou même avant, je sais plus. La Freebox Revolution. Je sais plus la date de la Freebox Revolution. Bref. On peut se dire, ça fait quand même longtemps pour attendre. 2010, ah ouais, c'est aussi vieux. Ouais, 8 ans, donc. En 8 ans. 2010. Donc, certains journalistes ont effectivement demandé à Xavier Niel, est-ce qu'on va devoir attendre encore 8 ans pour avoir une nouvelle box. Ce à quoi il a répondu non. On va accélérer les générations de Freebox. Normalement, il y aura donc des petites Freebox qui vont suivre les gros Freebox, les grosses Freebox qui ont été annoncées la semaine dernière. Les cycles de renouvellement étaient décalés. On prévoit une autre Freebox, un truc intermédiaire, dit-il, dans 2-3 ans. Donc, rappelons effectivement que la Freebox Mini 4K, qui aujourd'hui occupe le milieu de gamme de l'opérateur, a fait son apparition en mars 2015. Donc ça sera probablement déjà dans un premier temps des Freebox déclinés des hauts de gamme, de la One et de la Delta. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Tant mieux si le rythme s'accélère, il va falloir suivre. L'accueil de la One et de la Delta était relativement frais. Beaucoup de gens se posent des questions sur ces box et des abonnements qui vont derrière. À voir si ça va être un succès pour Free ou s'il va falloir qu'ils se remettent un petit peu en question. Et ça peut effectivement faire poser la question, tu fais bien de le dire, Tic-Tac-Oumi. Aujourd'hui, le player, la Freebox coûte assez cher. Est-ce qu'on a envie de l'acheter en se disant qu'il y en a peut-être des moins chers qui arrivent? Ce qui manque un petit peu à l'offre aujourd'hui, je trouve, c'est que pour quelqu'un qui a déjà un NAS, qui a déjà des enceintes et tout, s'il veut de la nouveauté, il va falloir qu'il prend ces nouvelles box qui ont un peu tout dedans. Il y a des trucs qui vont lui servir à rien, donc il va pas tellement avoir envie d'acheter des options dont il n'a pas besoin, quoi. C'est vrai que ça ressemble un peu à un Roomba, la Delta. Ça pourrait être pas mal que ça fasse aspirateur en même temps. Oui, là, vous continuez à essayer de traduire teaser, mais trouvez-moi une traduction qu'on dirait vraiment en français. Ah, j'ai vu l'avant-goût d'un film. J'ai vu la guicheur d'un film. Ou la guiche d'un film. À la limite, c'est le seul truc, mais bon, je suis conditionné par mon ancien collègue Philippe et Arnaud qui présentaient la guiche room, mais... Oui, enfin, le son des Vialet, si tu as déjà chez toi un système son, t'en as pas besoin du son des Vialet. Hein. La bande-annonce, oui, c'est la traduction la plus littérale. C'est la bande-annonce au cinéma. Mais bon, vous le dites souvent que vous avez vu la bande-annonce ? Enfin, le premier article, vous y êtes encore. Hein. J'essaye d'avancer, mais vous me tirez en arrière. C'est un petit hommage à une réplique d'un grand film. They pull me back in. Salut Tristan, à bientôt. Bon, annonce, c'est plus un trailer que teaser. Ouais, bon. Allez. Continuons. Hein. Vous essayez hein, de me tirer vers mon premier article, mais je ne me laisserai pas faire. Je me débats et nous abordons les deux derniers articles. On va parler effectivement du Rewind. Alors, est-ce que je prends le risque de vous diffuser les images ? Sachant que du coup, je vais probablement... Bon, je vais peut-être pas me faire bloquer. Bon, à voir. Je vais vous passer un petit peu les images du Rewind et on va les commander ensemble. Alors, pour rappel, le Rewind, c'est quoi ? C'est généralement une vidéo que YouTube fait chaque année destinée à passer un peu en review les nouveautés, les tendances de YouTube. Cette année, le Rewind, la conception du Rewind a été confiée aux YouTubeurs eux-mêmes. Et donc, l'intro de ce Rewind est faite par ni plus ni moins que Monsieur Will Smith, qui effectivement est devenu un YouTuber, puisque sa chaîne que j'ai... Alors, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Au début, c'était génial. Je sais pas ce que ça vaut maintenant, la chaîne de Will Smith. Mais effectivement, il s'est mis à fond sur YouTube. Donc, en gros, je vais vous passer que le début. Là, vous reconnaissez certainement, si vous aimez la tech, le fameux Marquis Brownlee qui était assis dans le bus. Ça, c'est Ninja, donc un streamer de Fortnite. Après, il y en a d'autres que je connais moins. Donc, ils sont dans un bus. Effectivement, grosse tendance hein, qui se dégage de YouTube cette année, c'est Fortnite, mais on reviendra justement là-dessus. Donc, ils ont reproduit un petit peu le côté. Et ils arrivent normalement dans un espèce de campement... où on voit d'autres tendances. Ouais, ça va être un peu long. Alors là, c'est aussi d'autres youtubeurs. Ça, c'est Lisa, je sais plus comment qu'elle s'appelle. Je ne sais plus. Je ne regarde pas du tout son contenu. Et bah après, il parle d'autres grosses tendances, genre la K-pop. Mais là aussi, ça fait un mini-scandale, la K-pop. Je vous expliquerai peut-être pourquoi. Avec d'ailleurs un pauvre Casey Neistat qui est parachuté là dans le K-pop, qui comprend pas trop pourquoi. Enfin bref, le rewind de cette année, alors peut-être plus intéressant que les tendances, parlons un petit peu de l'accueil qui a été fait de ce rewind, parce que cette année il y a une grande nouveauté. Le rewind a actuellement plus de dislikes que de likes. Je vais regarder les scores du jour si j'y arrive. Attendez. Hop. Ouais, c'est même assez significatif. Regardez là. On a 6,7 millions de dislikes pour 1,9 million de likes. Donc, grosse tendance aux dislikes. Que se passe-t-il ? Le rewind est-il devenu complètement ringard et complètement déconnecté de YouTube ? Ben, d'une certaine façon, oui. Alors, je vous conseille d'aller voir la vidéo que PewDiePie a fait sur le rewind, qui n'est pas d'ailleurs dans le rewind depuis 2 ans. La vidéo aussi qu'a fait H3H3 sur l'analyse du rewind. En fait, le rewind de cette année montre une image d'un YouTube... sur certaines tendances, on va dire, qui plaisent aux annonceurs, mais ne montrent pas forcément la réalité du YouTube tel que les gens l'aiment ou le regardent. Le fait qu'effectivement, il y a des grands absents dedans, parce qu'ils ne sont pas politiquement corrects, mais du coup, on n'a pas l'impression qu'on nous parle du même YouTube. Il n'y a pas les histoires sordides de Logan là-dedans, mais ça fait partie de l'actualité de YouTube. Il n'y a pas le combat drôle en ce moment entre PewDiePie et T-Series. Il n'y a pas le match de boxe qu'il y a eu entre Logan et Kay Machin. Hein. Bref, il y a tout un pan. Là, pour ceux qui ne regardent pas le YouTube américain, vous ne savez pas exactement de quoi je vous parle, mais il y a énormément d'événements qui ont imprégné l'année YouTube qui ne sont absolument pas présents. Et tout ce qui est effectivement scandale et ce genre de trucs. Et pourtant, c'est le YouTube qu'on a vécu. Donc, le YouTube qu'on retrouve dans le Rewind n'est pas forcément le YouTube qu'on aime. D'autres polémiques également ont émergé. On voit effectivement une grosse présence de Fortnite. Or, Fortnite, c'est plutôt sur Twitch qu'il est très, très présent. Souvent, les Twitchers utilisent uniquement YouTube pour mettre leur replay ou d'autres formats. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Fortnite est plutôt un jalon de succès et de réussite pour Twitch, plus que pour YouTube. YouTube, ça met justement un petit peu le doigt sur l'échec, pour l'instant, de YouTube sur ce qui est gaming. Ils ne sont pas arrivés à imposer leur plateforme gaming par rapport à Twitch. Donc, un récapitulatif pas très complet. Passons quand même rapidement, parce que là, on parle surtout des Américains. Mais qu'en est-il d'un éventuel rewind français ? Bah, la vidéo n'existe pas. YouTube France ne fait pas un rewind. Mais on a les plus gros succès de cette année. À voir si vous les avez regardés ou pas. Le top 10 des vidéos les plus regardées en France sur YouTube cette année. La palme revient à Dragon Ball, le son des enfers. Pas mal d'ailleurs, par le rire jaune. Ensuite, on a l'invention du corps humain par Cyprien, dans la tête des chats Norman, la chanson de la joie, c'est un défi, c'est par qui ça ? La chanson de la joie, bah c'est McFly et Carlito, j'avoue que je regarde pas du tout moi McFly et Carlito, donc je ne connais pas, merde j'ai perdu ma page du coup, pourquoi je suis plus sur ma page ? Et en cinquième, nous avons Squeezie avec le freestyle des potes. On regarde les premières vidéos de la chaîne. Ah là là, ce contenu cancer. Bigorneau et Coquillage, donc c'est Squeezie et Cyprien. Pardon, quand je dis contenu cancer, c'est moi qui aime pas ce type de contenu. On regarde les premières vidéos de la chaîne, c'est le genre de truc que je regarde pas. Les anges de la TV réalité, le monde à l'envers, la notice prendre l'avion. Ça, c'est qui déjà ? C'est par le WOP. On a également... Waouh, j'ai perdu le fil. On arrive à la fin du top 10. On a un corps de rêve en 30 minutes par Natou et le musée des ex par Andy. Voilà un peu le classement des 10 vidéos les plus regardées en France. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ça aurait pu être pire. C'est un peu toujours les mêmes. C'est vrai qu'on aimerait un petit peu de changement. Hein. Cyprien, Norman et Squeezie et McFly et Carlito, c'est un peu le quartet gagnant YouTube en ce moment. Mais bon, c'est normal. Enfin, c'est normal. À la limite, c'est presque rassurant. Le rire jaune, c'est bien. Moi, j'aime bien le rire jaune. Je trouve qu'il écrit bien. Tout n'est pas bon, mais je trouve que c'est pas mal. Ce clip-là était plutôt drôle. Le Dragon Ball, le son des enfers, était pas mal. Donc, je trouve que c'est pas si mal le top 10 qu'on a en France. Disons qu'on aurait pu avoir pire. Après, c'est évident, et ça, je le dis depuis 2-3 ans que je fais Techscope, que YouTube, une partie de YouTube devient TF1. C'est-à-dire, c'est un contenu qui devient de plus en plus de la télé-réalité, avec des contenus assez faciles, qui plaisent à un public très jeune. Parce qu'aujourd'hui, et c'est encore une réalité dans le YouTube français, un peu moins dans le YouTube anglo-saxon, mais en France, ça l'est très fort, que Madame Michu de YouTube, elle a entre 8 et 13 ans. C'est-à-dire, le mass market, les plus grosses audiences, se font sur les 8-13 ans. Toutes les vidéos qui dépassent 1 million de vues, c'est que généralement, elles ont touché plus ou moins les 8-13 ans. Parce que c'est aujourd'hui la cible à atteindre si tu veux faire énormément de vues. Donc, certains se sont adaptés à cet état de fait, certains humours se sont adaptés. On a vu aussi des vidéos un petit peu plus familial compliant, hein, pour utiliser un bel anglicisme. Disons que voilà, avec un contenu un petit peu qui est aussi plaît aux annonceurs. N'oublions pas que la grosse influence de 2018, c'était de faire un contenu qui soit monétisable auprès des annonceurs, puisque les annonceurs ont tapé un petit peu des points sur la table, et on dit à YouTube, c'est fini de que nos pubs passent devant n'importe quelle vidéo, on veut aujourd'hui un contenu trié, un contenu où il n'y ait pas des gros mots, pas des histoires polémiques, et pas ce genre de choses. Huit ans, ça te paraît très jeune, blabla, t'as pas vu, il y a beaucoup plus jeunes qui regardent YouTube. Hein. Non, la grosse audience, le problème c'est que YouTube peut pas nous le dire, parce que normalement t'as pas le droit de regarder YouTube avant 13 ans. Mais aujourd'hui tout le monde le sait, la grosse part d'audience de YouTube, c'est les 8-13 ans. Hein. Et effectivement, moi, tous les 8-13 ans que je connais, et même plus jeunes, ils regardent mes YouTube toute la journée, quoi. C'est hallucinant. Beaucoup plus même qu'on ne regardait la télé autrefois. Et pourtant, Dieu sait si on la regardait. Hein. Ouais, les unboxing jouets, ça fait partie des plus grosses chaînes. Hein. Ça fait partie des plus grosses chaînes. Donc voilà un petit peu les tendances françaises. Je pense que ça sert à rien de se dire « Oh là là, c'est nul, c'est nul ». Aujourd'hui, c'est la seule chose qu'il faut espérer. Est-ce qu'il y aura toujours de la place pour du contenu différent ? Et puis, n'oublions pas notre responsabilité aussi de spectateur, d'utilisateur de YouTube. Chaque fois que vous cliquez sur une vidéo pour la regarder, vous la cautionnez. Donc ceux qui me disent « Ouais, non mais je regarde ces conneries là, ces machins », et je parle pas des bonnes vidéos d'humoristes, mais je parle des pranks, des trucs un peu dégueulasses, la boue de YouTube, mais de la boue qui marche, hein, qui marche très bien, qui génère beaucoup de clics, parce qu'elle éveille la curiosité, elle aguiche les plus bas instincts de l'humanité. On clique dessus, on dit « Ouais, non, mais c'est pour m'en moquer. En fait, je regarde pas ça sérieusement. » Oui, mais mec, t'as regardé. Une vue, un vote. Ces youtubeurs qui font de la vue avec de la polémique, avec du prank, avec des trucs un peu dégueulasses ou complètement cons, ils font de la vue parce qu'ils savent très bien. Ils savent très bien que les gens ne le regardent pas sérieusement. Les gens regardent leur contenu pour s'en moquer ou pour être indignés ou pour être choqués, mais ils regardent. Donc, c'est exactement la même chose qu'avec les liens cancer qu'on a dans les articles. Oh, les 8 actrices d'Hollywood qui ont raté leur lifting. Si vous cliquez dessus, vous cautionnez ce contenu. Donc ne l'oubliez pas. Si vous voulez, à la limite, si vous voulez vraiment regarder un contenu comme ça, on va dire pour des raisons éditoriales, mettez-vous derrière un VPN, mettez-vous en compte masqué, planquez votre vue en fait. Sinon, vous les cautionnez. Et ces youtubeurs continueront à faire ce type de contenu. Plus, tant qu'ils font de la vue, ils continueront à le faire. C'est exactement la même chose. Et à la limite, voilà, ça fait partie de votre hygiène numérique. Si vous estimez que certaines chaînes bah, vous déplaisent, sont cancer, sont toxiques, sont mauvaises, arrêtez de les regarder. Comment ça, on diffuse pas un rythme soutenu, Manuka, tu vas me vexer. Eh oh, en ce moment, vous avez une à deux vidéos par semaine. Alors, vous arrêtez un peu avec Nowtech, ne fait pas du contenu. C'est quoi, vous voudriez une vidéo par jour? Ouais, moi aussi, j'aimerais pouvoir produire une vidéo par jour. Ah là, vous m'avez mis en colère. Hein. Oh, ça va, on est régulier en ce moment. Hein. Rythme soutenu, ça va quand même. Oh, 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 oh. Bah, les pouces vers le bas, c'est tout le paradoxe, en fait. Le pouce vers le bas est considéré par YouTube comme une interaction avec la vidéo. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif, en fait, pour une vidéo d'avoir des pouces en bas. Et même, on va en parler dans le dernier article, certains ont très bien compris qu'en créant la polémique et la haine des visionneurs, ils attiraient, en fait, la polémique sur eux, et ils faisaient de la vue, et au final, c'est ce qui compte, c'est le nombre de minutes vues. Donc, le pouce en bas ne fait pas dégringoler une vidéo... J'ai presque envie de dire ça sert pas à grand chose le pouce en bas. Par contre, le pouce en haut, oui, ça sert parce que ça aide le référencement d'une vidéo. Mais ne croyez pas que vous déréférencez une vidéo quand vous mettez le pouce en bas. Bah, vous en avez eu hein, cette semaine une non-sponsor. Tout le monde a cru que la dernière vidéo elle était sponsorisée par Sennheiser. Vous avez mal lu. Alors, oui, elle est sponsorisée par SOS Ciné. N'oubliez pas que SOS Ciné sponsorise tous les contenus SOS Shoot. Donc, c'est un partenariat long. Voilà, oui, toutes les vidéos SOS Shoot, d'une certaine façon, sont sponsorisées. Il devient pas incompréhensible, le panneau. C'est juste que vous le lisez plus, Vincent. C'est différent. Puis en plus, vous avez... exactement, t'as raison, Yannick. Il y a une vidéo par jour chez Nowtech le matin. Voilà. Il faudrait un bouton pour retirer sa vue. Ouais, mais non. Non, ne regardez pas. Ne regardez pas. Et n'oubliez pas que si un contenu vous déplaît, si plus vite vous arrêtez de regarder un contenu qui vous déplaît, moins vous le cautionnez. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le nombre de vues qui compte, c'est le nombre de minutes vues. Il n'y a pas un système pour bloquer ce genre de chaîne YouTube ? Si, dans tes abonnements, tu choisis bien les chaînes. Ce qu'il faut, c'est se désabonner des contenus que vous trouvez dégueulasses ou cancer ou toxiques ou vous aimez plus, quoi. Pour plus que ça remonte dans votre flux. À quand du contenu tuto sur Nowtech SOS Shoot ? Ça reprendra plutôt après les fêtes, ça, le contenu tuto ou Nowtech. Peut-être qu'il y en aura avant, je ne sais pas encore. Mais là, effectivement, on est très produit, c'est le moment des fêtes, faut parler des cadeaux qu'on va se faire pour Noël ou après Noël. »« 8h47, merci Samuel, j'ai vu. Quand YouTube propose une vidéo, on peut dire ce contenu ne m'intéresse pas. Oui, vous pouvez éduquer votre YouTube hein, aussi. Ok, Snapchat était valorisé à 24 milliards à son introduction. Merci Emeric pour l'info. Bref, et justement, ça s'enchaîne parfaitement avec le dernier article que j'ai trouvé assez intéressant. notamment avec tous ces fantasmes autour des influenceurs youtubeurs. Un article de CNET, ces influenceurs youtubeurs prêts à tout par amour du like. Donc, ça parle de mécaniques qu'on connaît bien. Aujourd'hui, il y a une course au like et donc une course à la polémique. Plus des influenceurs, instagrammeurs, youtubeurs créent des polémiques, plus on parle d'eux et plus ils génèrent effectivement de l'argent. On peut parler effectivement dans les derniers phénomènes qu'il y a eu, Emma Cakecup, 22 ans, 1,4 million d'abonnés sur YouTube, avec son petit ami Vlad Holtin, 1,2 million d'abonnés sur Instagram, qui ont fait parler d'eux, puisque d'abord ils ont fait une promo effectivement de montres connectées contrefaites. Ça, il y a la vidéo de Micode qui explique un petit peu ça. Mais ils ont fait aussi un bad buzz le 11 novembre dernier, puisqu'ils avaient publié une photo où ils étaient dans une position proche de l'acte sexuel, avec comme légende, avec ma beauté, je rigole parce que je suis en train de lui faire pipi dessus. Hihi, allez, bon dimanche, une pensée aux morts tombés pour la France. C'était assez classieux comme message quand même, hein ? Tout de suite, ça me met dans le bain. Le poste a été retiré, mais là aussi, à vous offusquer sur ce type de poste, bah, vous tombez dans le panneau. La polémique avait été, c'est de la polémique travaillée, c'est fait exprès pour qu'on parle d'eux. Ça leur a valu énormément de nouveaux abonnés, hein. Ça peut vous sembler paradoxal, mais non, plus tu crées le scandale, plus on parle de toi. Et ça, certains l'ont très bien compris. On sait aussi que certains n'hésitent pas à publier des photos et des vidéos de leur enfant sur Instagram, tout en se plaignant du nombre pas assez élevé de likes générés, qui manipulent leur progéniture en leur faisant faire des blagues de très mauvais goût, qui sont ensuite diffusées sur YouTube, dans l'idée de récolter des milliers de vues. Ces pranks ou les canulars vidéo tournent souvent à l'humiliation pour ceux qui en sont victimes. Ce fut le cas en août dernier, avec ce père de famille dont la chaîne de 5,6 millions d'abonnés était suspendue pour donner des laxatifs à ses enfants avant de les filmer pleurant aux toilettes. D'autres aussi piègent, c'est la grande tendance en ce moment dans les vidéos prank. Et les vidéos prank, je le dis, c'est un cancer, les vidéos prank. Boycottez les pranks, mais boycottez. Si un jour vous me voyez faire un prank, boycottez-moi, je vous le dis. Hein ? Le prank qui fait des vues, c'est un des cancers de YouTube. Bref, la grosse tendance, c'est maintenant de piéger son conjoint. Mon mec découvre que je l'ai trompé. Lauren Cruz, ex-starlette française de la télé-réalité, a laissé traîner un préservatif sur le lit d'une chambre d'hôtel avant de filmer son petit ami en colère. Mission accomplie. 585 000 vues. Ouais, 600 000 vues, quoi, pour un préservatif. Ouais. C'est sûr que, putain, pourquoi je me casse le cul, quoi. Le youtubeur, parce qu'il n'y a pas que les Français, le youtubeur suisse, Birdie, a aussi fait croire à sa fiancée, qui est désormais son ex d'ailleurs, de 18 ans, qu'il prenait de la cocaïne ou qu'il la trompait avant de filmer en direct ses larmes. Ah ouais, ouais, bah, ces vidéos ont récolté 1,6 et 3,7 millions de vues. Eh oui. Un prank, c'est un canular que tu filmes, en fait. C'est ça, hein, un prank. Non, Jean Bomber, très bon pseudo, Jean Bomber, c'est pas forcément résilier son premium. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'avec ton premium, tu ne regardes que d'autres chaînes. Plus vous allez pointer, vous les visionneurs, vers des bonnes chaînes, vers des chaînes qui produisent du bon contenu, et moins vous pointerez vers des chaînes, moins ils produiront, moins ils existeront. Le problème, c'est que ces chaînes existent parce que les gens les regardent. Vous savez le vieil adage qui dit, ça je le répète chaque année, je vais le répéter encore cette année, on se demande toujours si la télé produit du contenu de merde parce que les gens aiment regarder de la merde, ou est-ce que les gens regardent de la merde parce que la télé produit de la merde. C'est la vieille question. Et j'ai envie de dire que YouTube finalement nous apporte la réponse, puisque YouTube c'est un contact beaucoup plus direct avec le contenu, on regarde ou on ne regarde pas. Eh bien, c'est assez net qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment regarder de la merde, puisqu'ils cliquent sur de la merde. Et du coup, les youtubeurs qui ont un contact beaucoup plus direct avec leur public que ne l'ont les télés, ben, produisent de la merde pour plaire à ces gens-là. « Alors, il y a une différence entre les pranks et les caméras cachées. Une caméra cachée a une tendance bon enfant, hein, généralement, alors que le prank va souvent chercher une forme d'humiliation de la personne qui est tombée dans le guet-apens, quoi. Ouais, Coluche qui disait, il suffit de pas acheter pour que ça se vende pas. Tout à fait. Oui, mais la télé-réalité fonctionne exactement, Nicolas, sur le même principe. Là, si tu interroges la majorité des gens qui regardent les émissions de télé-réalité, je parle des pires, ils vont dire, non, mais moi, je regarde pour m'en moquer, j'aime pas, mais en fait, j'aime bien les critiques qui sont tellement nuls, c'est de la merde. Et j'aime bien regarder pour dire que c'est de la merde. Oui, mais mec, t'as regardé. Il y a ce très bon sketch, comment elle s'appelle, l'humoriste. Ah, j'arrive plus à retrouver son nom. Qui parle de ça. Elle dit non mais alors tu regardes de la télé-réalité parce que c'est de la merde, mais genre c'est ton métier, t'es merdologue, t'es comment elle s'appelle, aidez-moi, c'est Blanche Gardin ou Gardin, ouais. Un très bon sketch là-dessus. Elle me fait beaucoup rire d'ailleurs, cette humoriste. Beaucoup, beaucoup rire. Et c'est là où on a tous du pouvoir. Alors, juste pour terminer l'article, parce que c'est quand même assez intéressant, dans les histoires les plus... Mais vous savez, dans le monde tech, c'est pareil, hein. Je veux pas viser forcément Jojol parce que j'en ai parlé avec lui et puis c'est normal qu'il fasse des vidéos qui marchent, mais c'est vrai que broyer son smartphone, le balancer de très haut et tout ça, c'est pour faire des vues parce qu'il y a une vraie demande, en tout cas il y a une vraie appétence, comme on dirait en français, pour ce type de vidéo. Bon, moi vous savez, je sais que ces vidéos elles marcheraient et que ma chaîne marcherait mieux si je faisais ce type de vidéo, mais après je les fais pas. Parce que mon unique obsession n'est pas le nombre de vues. C'est là aussi où, bon... Mais après, il faut comprendre qu'un YouTuber, et on en vient justement au business, nous, c'est du business, et il faut bien vivre, et ceux qui vivent uniquement du sponsoring et de la publicité, bah, ils ont besoin de faire un maximum de vues, quoi. Donc, ils vont aller vers les formules qui font un maximum de vues. Le tutorien, j'invite à qui le souhaite à découvrir ma chaîne. Eh bien, écoute, allons voir la chaîne du tutorien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton super chat. Bah, éduquer aussi les plus jeunes à ne pas regarder que ce type de contenu cancer. Justement, tous les trucs, effectivement, broyer son iPhone dans un blender pour boire le jus, enregistrer du son quotidiennement de ses pairs au travail. Remarque ça, je trouve... À la limite, je trouve ça drôle. Tout dépend comment c'est fait. Mais bon, j'ai un humour très corps de garde. 24 heures dans une baignoire remplie de Coca-Cola. Eh ben oui, bonne idée, ça. Mais il y a plus grave. Il y a ceux qui ont carrément fait des trucs qui flirtent avec l'illégalité, comme ce couple, Cole et Savannah Labrante, qui ont créé le bad buzz en faisant semblant d'évacuer leur maison en urgence à cause des incendies. Ils ont récolté 4,5 millions de vues. Et des cas extrêmes comme Mona Lisa Perez, 20 ans, condamnée à 6 mois de prison ferme pour avoir tiré à bout portant sur son petit ami et l'avoir tué, hein, afin de rendre une vidéo virale. Le jeune homme, Pedro Ruiz, 22 ans, rêvait de devenir célèbre et c'est de lui que serait venue l'idée de cette mise en scène. Et oui, ça conduit à des extrêmes pour se faire remarquer parce que c'est un monde extrêmement compétitif. Justement, on va en arriver à la fin. Il y a une surenchère de la vidéo sensationnelle et sensationnaliste. Certains vont filmer des accidents de voiture, d'autres font croire à des visiteurs de parcs d'attractions qu'une fusillade est en cours. Bref, tout est bon pour créer le bad buzz. Le bad buzz récoltant énormément, effectivement, de vues. Parce que les gens vont regarder pour se scandaliser, en fait. C'est ça, hein, le principe d'un bad buzz. Ça va au-delà du Darwin Award parce qu'ils sont pas, on peut dire, ils sont complètement cons, mais en fait c'est pire que ça et c'est l'analyse de la fin de cet article qui est assez intéressant. C'est un psychanalyste qui explique que effectivement cette course au buzz, c'est l'internet réalité, c'est quelque chose qui est né en même temps que les likes, cette course aux likes. Et le problème, c'est que c'est une spirale infernale dans laquelle sont pris certains youtubeurs et certains influenceurs. Et il faut comprendre pourquoi. Il y a deux raisons. Il y a d'abord une raison économique. Et ça, elle est simple à comprendre, c'est que ces youtubeurs et ces influenceurs attirent les marques grâce aux vues. Et aujourd'hui, une des manières les plus simples de faire de la vue, c'est absolument pas la qualité. Hein. La qualité n'attire pas le like et n'attire pas la vue. Hein. Faut le savoir, tous les youtubeurs le savent. Produire du contenu de qualité, c'est pas le secret aujourd'hui pour avoir du succès. Presque certains disent même l'inverse. Mais bon, mais sachez-le, c'est ce qui se dit entre youtubeurs. Hein. Moi, par exemple, je suis un ovni hein, à m'acharner à faire des vidéos avec beaucoup de prod, machin et tout. Bon, nous aussi, parce que on parle de photos et de vidéos, donc on se doit de faire... Mais c'est pas vraiment la tendance chez les youtubeurs. La tendance, c'est de produire le plus possible, même si c'est du contenu rapidement fait, à la limite du live, quoi. Parce que c'est les gens préfèrent voir beaucoup beaucoup de contenu que de la qualité. Bref, mais voilà, il faut pas oublier que ces youtubeurs, ces influenceurs aujourd'hui, c'est leur business, c'est leur vie d'attirer les marques avec des vues. Et le bad buzz est aujourd'hui la manière la plus simple. Le bad buzz est plus efficace que le porno quelque part. Le bad buzz génère plus de vues qu'un booms. Le bad buzz génère beaucoup plus de vues que tout en fait. De se créer du bad buzz. Et oui, on pourrait penser que les marques préfèrent du consensuel. Oui et non. En fait, il y a des marques, au contraire, qui cherchent un peu des bad boys. Qui cherchent, voilà. Certaines marques, notamment pour les plus jeunes, vont plutôt effectivement essayer de d'acoquiner leur marque avec quelqu'un d'un peu canaille, pour dire les choses gentiment. Donc voilà, c'est juste un peu les tendances. C'est la deuxième raison pour laquelle, et je terminerai là-dessus, les youtubeurs, mais c'est souvent aussi, c'est des gens très fragiles au niveau psychologique. On ne et je le dis alors que je suis un youtubeur, mais je l'admets complètement, on ne devient pas youtubeur ou influenceur. Et cette quête du like répond à un écho beaucoup plus profond au niveau psychologique. On est en recherche d'une forme de reconnaissance. Au même titre qu'un acteur ou quelqu'un qui devient public, il y a une forme d'envie d'être regardé, d'être aimé, d'être liké. Il y a une recherche de l'approbation dans le regard des autres. Peut-être une approbation qui a manqué à la petite enfance, on ne va pas faire de la psychanalyse de petite cuisine, mais il y a souvent ça. Et c'est des gens qui sont pris dans cette spirale avec une justification économique de cette spirale, mais souvent c'est plus profond. Comme ils vont inéluctablement... c'est inexorable qu'ils aillent vers une baisse du like, parce qu'il y a toujours une érosion du like. Ils sont pris dans cette angoisse, donc ils vont être pris dans la surenchère de faire de plus en plus pour essayer d'attirer de plus en plus de likes. Ils ont tellement peur d'en perdre que voilà. Jérôme, on t'aime, mais merci mes fans, nous resterons ensemble et nous lutterons contre... Mais après, moi je suis complètement serein par rapport à ça, mais j'ai aussi un certain âge qui me permet d'être serein. Je comprends que des plus jeunes soient obsédés par ce critère de like, de nombre de vues, et que c'est leur mesure de leur succès. Moi, je leur donne comme seul conseil que la seule mesure du succès, ça devrait être d'être content et heureux de faire ce qu'on fait et de se lever le matin. Après, je suis le premier à dire, après, il faut en vivre. Et après, il faut arriver à convaincre les gens de te soutenir. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, le fait qu'une partie de notre chiffre d'affaires soit fait par le crowdfunding et votre support, parce que ça me permet de garder un compas. Un compas, pas un compas moral, mais une ligne édito de la chaîne. Je vais plutôt faire du contenu qui va plaire à mes plus grands fans, ceux qui sont prêts à nous donner 1 € ou plus tous les mois pour qu'on continue. Et c'est à eux que je pense le plus. Et par extension, je pense à ma communauté, parce que bien sûr, je pense à ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas même nous donner une contribution. Mais pour moi, c'est notre communauté, c'est celle qui aime notre démarche, qui aime ce qu'on fait. Et c'est ceux auxquels je suis le plus à l'écoute. Je sais qu'en ce moment, vous dites oui, il y a beaucoup de vidéos sponso, etc. Bon, parce que j'ai aussi des impératifs économiques. Si on veut que la chaîne continue à grossir et éventuellement grossir la communauté, notamment la communauté qui est prête à nous soutenir, bah, il faut que je me déploie, il faut que j'investisse, il faut que je salarie. Et oui, on a besoin d'argent. Alors, j'essaye de faire du sponsoring le plus à ma façon possible. Je sais qu'on va perdre des gens hein, dans cette opération. Je sais qu'il y a des gens, ça leur déplaira. Enfin, on peut pas plaire à tout le monde. Mais je vous écoute beaucoup sur ces sujets-là. Ne croyez pas. Bref. Il y a des mots, j'y arrive pas. Inexorable. Ça va, inexorable, mais inéductable. C'est inéluctable. Et bref, inexorable. Ça y est, j'y arrive. Bah, non seulement il faut gagner sa vie, mais il faut aussi grossir. Merci, Michael Kavin, pour ton super chat. Tu devrais ouvrir la chaîne Now Merde pour tester. Ouais. Tu vois, le truc, c'est que j'ai pas envie de le faire. Il y a des trucs, je sais qu'il est 9h05, hein, mais là je suis lancé. Il y a des trucs que je sais qu'il faudrait faire sur la chaîne pour faire beaucoup de vues, mais j'ai pas envie de les faire parce que je prendrais pas de plaisir à les faire. C'est là, c'est difficile à comprendre, mais je pense que vous me comprenez. Je sais très bien ce qui marcherait mieux sur la chaîne. Je sais très bien comment on pourrait faire beaucoup plus de vues, mais j'ai pas envie de le faire. Parce que ça me plairait pas et je serais malheureux de le faire parce que c'est pas le contenu que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, ma seule ligne édito et la seule qui est importante, c'est que je fais les vidéos que j'ai envie de faire. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui disent « Ah, mais tu m'avais promis de faire quelques... Pourquoi elle est toujours pas là, ta vidéo ?» Parce que j'ai pas encore envie de faire cette vidéo-là. Ça va venir. Mais je te garantis que tu préféreras la vidéo que je vais faire sur ce sujet quand j'aurai envie de la faire. Parce que je partage avec vous le plaisir, une passion. Et si je la ressens pas, bah, je la partage pas, quoi. Le mec a une morale et un principe. Pff, ouais, c'est complètement has-been, je sais. Marion partage ton avis. En tout cas, on a beaucoup d'échanges. Non, elle partage pas toujours mon avis. Et c'est ça qui est intéressant. On a beaucoup d'échanges et de réflexions. Allez, on va passer effectivement au vide ton fac. Désolé, hein, mais vous savez que c'est le genre de sujet. Je suis à fond dessus. On va faire un petit vide ton fac de... Allez, 4 minutes de vide ton fac. Vous posez vos questions. J'y réponds de manière mitraillette. Si vous avez des questions. Pas de questions platinium. Merci Samuel. C'est sûr qu'un Texcope fait par Whisky serait très bankable. Probable. Probable qu'on ferait plus de vues. Mais on ne veut pas exploiter notre chat. Enfin, notre chat, le chat de Marion. Je me suis un peu approprié. C'est ma ligne édito aux directives qui m'a donné envie de te donner 4 euros par mois. Bah, c'est ce que j'espère, Alexis. Parce que même, je vais être franc avec vous, je suis transparent avec vous, aujourd'hui, les contributeurs, ce n'est plus aussi important dans le chiffre d'affaires qu'autrefois. Parce qu'on ne pourrait pas... Je vous le dis, hein, même avec l'argent des contributeurs, je ne pourrais pas salarier Karina. Vous savez qu'il y a énormément de charges à payer, etc. Ça ne suffirait pas. Mais... Même si ça a une portion plus petite dans le chiffre d'affaires de la chaîne, les contributeurs, ça reste le truc le plus important. Parce que comme je vous dis, c'est le guide éditorial de la chaîne. Cette somme des contributeurs, c'est le truc que j'essaye de faire le plus grimper. Voilà. Et vous n'êtes pas d'accord sur quoi avec Marion au sujet de la chaîne ? Oh, c'est parfois, ça dépend. Mais je partage souvent avec Marion des idées de titres de vidéos, de sujets. Est-ce qu'on devrait dire ça ? On échange sur le Texcope. On échange sur tout un tas de choses, quoi. Est-ce une bonne idée de se lancer sur YouTube aujourd'hui? Faut... J'ai envie de te dire oui si tu sens que c'est inéluctable pour toi. En gros, c'est un peu comme un artiste. Je dirais si tu sens vraiment le besoin, si tu fais ça pour réussir et gagner de l'argent, arrête tout de suite, fais autre chose parce que c'est très difficile, c'est plus difficile aujourd'hui. Mais si t'as pas le choix, parce que t'as envie de faire quelque chose, de le partager, vas-y à fond. Vas-y à fond. Jamais je découragerai quelqu'un qui a envie de faire du YouTube d'aller sur YouTube. Mais si t'y vas à moitié ou tiède en te disant oh, je vais voir, t'y arriveras pas. C'est très dur hein, aujourd'hui. Niveau objectif, plutôt que le 12-35 F2.8 Panasonic ou le Olympus 12-40 F2 Pro Zinco, bah, ça va dépendre de ce que tu fais. Le 12-35 F2.8, il a l'avantage d'être stabilisé. Le 12-40 F2.8, il n'est pas stabilisé. Mais là, il est réputé pour avoir un meilleur piqué en photo et tout. Donc, ça dépend si tu fais de la photo, de la vidéo et tout ça. Après, oui, il y a de la place sur YouTube. Il y a des créneaux qui sont moins pris. Pour moi, il reste de la place dans la tech, dans la photo, la vidéo. Ça, il n'y a pas de problème. Après, il y a d'autres créneaux qui commencent en France à être un tout petit peu embouteillés. Mais il y a toujours de la place pour les bons. Hein. Depuis qu'il a appris le mot, Jérôme place inéluctable. Tous les deux, tu m'étonnes. Comment tu vois l'avenir des contenus créatifs sur Internet? Ça va être compliqué parce que le crowdfunding, c'est pas évident, hein, le crowdfunding. Regardez, nous, voilà, ça stagne un peu. On a une très bonne communauté en crowdfunding, mais malgré le fait que la chaîne a de plus en plus d'abonnés, on n'arrive pas à faire grimper notre nombre de contributeurs. J'essaye de nouvelles stratégies. On va voir comment on peut faire grimper le nombre des contributeurs. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire grimper. C'est un fait. Alors que la chaîne a quasiment doublé d'audience en d'abonnés sur YouTube, on n'a absolument pas doublé le nombre de contributeurs. Donc, le contenu comme ça, crowdfundé et tout ça, c'est pas évident. Hein. Les contenus créatifs, ça va pas être évident. Je me suis lancé il y a 2 ans par passion et je ne le regrette pas. Mais c'est très bien en passion vidéo. À la limite, tant que tu as résolu ton équation financière, il faut continuer. Le problème de se lancer que par passion, c'est que si tu en oublies la composante financière, tu risques de ne pas aller loin. La tech s'est embouteillée? Non, il y a toujours de la place pour moi en tech. Regarde, t'as des mecs comme Monsieur Greux et tout ça, en faisant là une vidéo par jour et tout, il commence à se faire... Et il, même sa chaîne, il explose, il a... Enfin, il a grimpé très très vite, hein. Donc il y a de la place, hein. Est-ce qu'il existe des mécènes entreprises millionnaires qui financent des youtubeurs? Pas à ma connaissance. Ce serait une bonne idée. Si un millionnaire m'entend... Mon objectif dans les 2 ans à venir, survivre. Survivre et croître et grossir. La chaîne, hein, pas forcément moi. C'est décidé, ça fait 2 ans que je te suis, je deviens contributeur aujourd'hui. Très bien, Jimmy Lafleur. Bah, écoute, on est ravis de t'accueillir. Ravis de t'accueillir. T'as tes clients à côté, donc tu ne souhaites pas vivre de YouTube. Bah, c'est très bien, hein. C'est très bien. Le YouTube peut être tout à fait envisagé comme un à côté aussi. Moi, c'est vite devenu clair que si je voulais produire du contenu comme je le produis moi, je ne pouvais pas avoir un travail à côté. C'est aujourd'hui, en termes de temps, c'est impossible. Donc, soit il fallait que je diminue la qualité du contenu ou ne faire qu'une vidéo par mois et continuer mes autres boulots, soit me lancer à fond dedans. Et c'est à fond dedans que j'ai choisi. Ah non, mais Nikon n'a pas du tout payé SOS Ciné. Hein. Nikon, il a prêté le matos à SOS Ciné pour qu'il le teste. Non, ah non, ça marche pas comme ça. Hein. Ouais, mais Alexis, tout est un problème de temps. Tous les youtubeurs te le diront. Tout, alors ça dépend du contenu que tu produis. Si tu produis des vidéos faciles à monter, tu peux te dire oui, je produis du YouTube et j'ai un boulot à côté de vidéaste. Mais la plupart des YouTubeurs aujourd'hui, ça prend trop de temps pour avoir un boulot à côté. Hein. Webedia rachète des chaînes YouTube. Oui, Webedia signe des chaînes YouTube. Alors c'est pas tout à fait un rachat, mais c'est un partage des gains, mais. Et derrière, Webedia qui rachète des chaînes, en fait, ils achètent, sachez-le hein, quand même, Webedia paye ensuite, ils ne se payent pas des vues, mais ils payent de la promotion des vidéos des chaînes qu'ils ont dans leur giron pour qu'elles fassent plus de vues. Donc en gros, c'est un système, voilà, Webedia pour gonfler les chaînes aussi. À quand une vidéo où tu présentes toutes les lumières que tu utilises? Un jour. Nom de Zeus, qu'est-ce que ce mug? C'est un mug que Albert m'a offert. C'est la petite licorne. On en vit à partir de combien d'abonnés? C'est pas le nombre d'abonnés qui va te permettre d'en vivre, YouTube. De toute façon, la pub YouTube rapporte absolument pas de quoi vivre. Pour en vivre, il faut que tu aies des sponsors, il faut que tu aies des vidéos sponsorisées, il faut que tu aies des marques, il faut que tu aies du lien d'affiliation, il faut que tu aies des contributeurs. Mais YouTube en lui-même, c'est quasiment impossible d'en vivre. Il n'y a que des très, 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 très grosses chaînes qui arrivent au nombre de vues à vivre de la publicité. Et encore, généralement, elles sont quand même obligées de prendre du sponsor à côté et tout ça pour payer leurs salariés. Voilà, voilà. Allez, je vais peut-être m'arrêter là. Il est déjà 9h15. C'est un mug à ne pas utiliser à l'envers, tout à fait. Puis, il faut faire gaffe à ne pas s'éborgner avec la petite corne. Vous voyez, ça tape sur la lunette. PewDiePie doit gagner assez avec ses vues. Ben non, comme il se fait démonétiser beaucoup de vidéos, c'est pas forcément simple. Alors oui, il gagne quand même pas mal d'argent, mais derrière, il fait du merchandising. Enfin, il faut pas oublier qu'il paye quand même deux monteurs, PewDiePie. Il a une entreprise. Alors attention, il est pas à plaindre. Hein. PewDiePie a bien réussi, mais PewDiePie, vous me parlez toujours des plus gros. Faut penser aux youtubeurs moyens, comment il fait pour joindre les deux bouts. Mais même PewDiePie, il y a du monde hein, qui travaille autour de lui. Je pense qu'il a une équipe entre 5 et 10 personnes autour de lui. Oui, alors certains disent que Casey Neistat gagne 100 000 euros par mois juste avec ses vidéos. Il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de fantasmes hein, autour des youtubeurs. Je pense qu'il doit se gagner facilement 10 à 20 000 dollars par mois. Ce qui peut vous paraître énorme. Mais là, on parle de showbiz, les gens. Combien un acteur gagne par film? C'est là où il faut reprendre le sens. C'est peu par rapport au nombre de vues qu'il fait dans le monde du showbiz. Je pense que Casey gagne beaucoup plus d'argent avec ses deals avec Samsung et ce genre de choses. Bon, allez, il faut qu'on y aille. Je vous fais des gros, gros bisous. Et puis, on se retrouve demain matin. Et ouais, demain matin, un nouveau Techscope, un nouveau jour. Passez une très très bonne journée. Ciao tout le monde. Ciao.